La grande question pour nous, c'est comment ne pas perdre la guerre à travers une défaite de l'Ukraine. Et cette défaite de l'Ukraine, eh bien, elle est évidemment possible. Une défaite partielle, une défaite éventuellement totale, car on sait aussi qu'une armée peut s'effondrer. Et en même temps, c'est que l'Ukraine aussi peut gagner la guerre, mais est-ce que la Russie peut la perdre sans avoir la tentation du recours à la levée du tabou chimique et la levée du tabou nucléaire?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue aux rencontres de Pétrarque en direct et en public de la cour du rectorat de Montpellier. Des rencontres en partenariat avec la revue Le Grand Continent, animées toute cette semaine par la question « Quelle paix pouvons-nous espérer ?». Hier, on l'entendait dans la voix à l'instant de l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau, nous avons tenté de mettre des mots sur ce à quoi l'Europe est confrontée avec l'offensive russe en Ukraine. Retour de la guerre, retour du tragique, retour de l'histoire avec un grand H. Avant de nous demander ce que l'Europe en tant qu'union pouvait faire pour rétablir la paix et éviter que le pire ne s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine. Dans ce deuxième temps de la semaine, c'est des stratégies pour arrêter la guerre que nous allons discuter, essentiellement autour de l'axe militaire et de la démarche diplomatique. Depuis près de 5 mois, à l'ombre de l'offensive russe, se dessinent 2 visions. L'une qui cherche à en finir au plus vite, l'autre qui veut faire payer la Russie pour sa cruauté et son impérialisme du Nouveau Monde. L'Union européenne commence à se fissurer à ce sujet entre camp de la paix et camp de la justice. Alors que peut la diplomatie dans ce débat? Et plus largement, pourquoi continuer de discuter avec l'ennemi quand la guerre est déclenchée? Dans cette zone grise entre belligérance et indifférence, quelle est la plus efficace des stratégies? Celle qui parle par les armes ou celle qui use de la voix? Pour répondre à cette question difficile, nous avons pour l'instant 2 invités, j'espère 3 dans peu de temps, le troisième ayant été retardé par le train, par la canicule notamment. Donc nous rejoindra tout à l'heure Louis Gauthier, qui a été secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Mais nous avons bien avec nous 2 invités. Pierre Vimont, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin lors de l'invasion de l'Irak. Dans le film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay, c'est Nils Arestrup qui jouait votre rôle. Cela dit peut-être quelque chose aux auditeurs et aux auditrices et aux spectateurs et spectatrices qui sont en face de nous. Vous avez été ambassadeur à Washington de 2007 à 2010, puis secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure de 2010 à 2015, médiateur du Quai d'Orsay, envoyé spécial de l'initiative française pour une conférence de paix au Moyen-Orient en 2016. Depuis 2019, vous êtes le représentant spécial du président de la République pour l'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie. Par ailleurs, vous êtes chercheur au think tank Carnegie Europe. On dit de vous que vous êtes l'homme des missions compliquées. Vous avez notamment obtenu la libération des journalistes Georges Malbruno, Christian Fesneau et Florence Aubenas quand ils étaient otages en Irak. Une épreuve de tous les instants, on imagine bien, qui a duré 9 mois. À vos côtés se trouve le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue de Défense Nationale, qui est une revue mensuelle. Le dernier numéro est le numéro de juin 2022. Il est intitulé « Guerre technologique et rivalité politique ». On va commencer par un certain nombre de questions qui ont trait à des incidents récents. On écoute le président de la République.
Pourquoi j'ai parlé à un moment de dire il fallait pas humilier la Russie, il faut parler. Ça a fait beaucoup de réactions parce que je parlais de l'issue, je disais à la fin. Vous voyez bien.
Pourquoi vous l'avez dit maintenant alors qu'on n'est pas à la fin?
À dessein, je l'ai dit le 9 mai. Parce que monter une musique qui continue à être là, plus anglo-saxonne, consistant à dire nous devons anéantir la Russie, l'affaiblir durablement. Or ça, c'est autre chose que faire ce qu'on fait. Je pense qu'il y a là un risque. Le premier, c'est de confondre les positionnements. Nous sommes là pour aider l'Ukraine à gagner, à protéger son territoire, son indépendance. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre la Russie, encore moins l'anéantir.
Mais pourquoi ça pouvait poser un problème, cette musique-là?
Mais parce qu'elle coupe, parce que c'est comme ça que se font les escalades. Les escalades.
C'est-à-dire?
Mais vous perdez le contrôle d'un conflit. On n'a pas le contrôle, mais vous fermez les options, vous réduisez la capacité à être utile. Pour nous, être utile, c'est les aider, aider à résister, sanctionner pour que ça se stoppe, mettre de la pression diplomatique, isoler, mais à un moment donné aussi, aider à bâtir la paix. Si vous fermez toutes les options en escaladant verbalement, vous êtes beaucoup moins utile.
Voilà, je pense que c'est un extrait extrêmement intéressant pour notre discussion de ce soir. Il est extrait d'un documentaire qui a été diffusé il y a quelques semaines sur France 2, qui est tout à fait regardable encore, en replay, comme on dit. Le documentaire s'appelle « Le président, l'Europe et la guerre ». Il est signé Guy Lagache, qu'on entend dans cet extrait poser des questions au président de la République. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de cette séquence sur la déclaration qui a été reprise d'ailleurs par Emmanuel Macron plusieurs fois sur le fait de ne pas humilier la Russie, qui a créé un petit incident diplomatique? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit de l'utilité de continuer de parler? Pierre Vimont, pour commencer.
Pour répondre tout de suite à votre question, bien évidemment, je suis d'accord avec ce que dit le président de la République. Mais je voudrais peut-être l'élargir comme vous l'avez fait également. En période de guerre, dans une guerre dans laquelle on se trouve aujourd'hui de haute intensité, la diplomatie n'a plus grand-chose à faire en réalité. Et son champ d'action est extrêmement limité, en fait. C'est pour ça qu'il faut, je crois, rendre hommage au président de la République de continuer à essayer de garder toutes les portes ouvertes pour profiter de toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Mais on voit bien que quand la guerre éclate, on est dans l'émotion, on est, je dirais, dans la haine, dans des sentiments extrêmement forts. Rappelez-vous, au tout début de cette guerre, il y a eu une ébauche de négociations entre la Russie et l'Ukraine, d'abord à la frontière avec la Biélorussie, et puis pendant plusieurs jours, de manière assez approfondie, à Istanbul. Et puis tout s'est arrêté en réalité parce qu'on a découvert les horreurs de Boutcha et de tous ces massacres aux environs de Kiev. Et à ce moment-là, pour les Ukrainiens, pour le président ukrainien, pour la population ukrainienne, il n'était plus possible de parler avec la Russie. Et c'est compréhensible. Et je dirais que d'ailleurs, toute la communauté internationale, ou en tout cas toute la coalition des pays européens et de l'Amérique, les pays occidentaux, cette coalition s'est rangée comme un seul homme derrière l'Ukraine. Ce que dit le président quand il parle d'humiliation et d'éviter d'humilier la Russie, je crois que c'est davantage dans une perspective de moyen et long terme. C'est-à-dire que dans le court terme, le président d'ailleurs le dit et le répète régulièrement, nous ne pouvons pas permettre à la Russie de gagner. Il faut donc aider l'Ukraine. Mais au-delà du champ de bataille, lorsqu'il faudra le moment venu, et ce moment n'est sans doute pas encore venu, quand le moment sera venu de revenir à la table de négociation, alors il faut se donner tous les moyens d'ouvrir toutes les options possibles. Et c'est pour ça que même en temps de guerre, les diplomates continuent à garder le contact aux Nations Unies, dans d'autres enceintes, pour voir si à un moment ou un autre, on peut d'abord régler certains problèmes très concrets qui se posent aujourd'hui. Pensez à l'exportation des céréales depuis le port d'Odessa, pensez à l'échange de prisonniers, pensez tout simplement aux couloirs humanitaires que l'on essaie d'organiser dans toutes les villes assiégées d'Ukraine à l'heure actuelle. Là, il y a un travail à mener et il est mené de manière quotidienne. Sur le moyen et le long terme, retrouver le chemin de la paix, c'est plus long, c'est plus compliqué et en grande partie pour le moment, la parole est plutôt aux militaires.
Alors, la parole est au militaire. Général Pellistrandi.
Oui, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas de solution diplomatique. On est vraiment dans la guerre. Et c'est ça ce qui est absolument dramatique. Depuis le 24 février, c'est une guerre totale. C'est une guerre, on va dire, qui est pratiquement symétrique dans la mesure où on a des armées qui ont à peu près les mêmes compétences, qui au départ avaient les mêmes moyens. Même si, bien sûr, la Russie est plus forte au départ hein, que l'Ukraine. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont les armes qui parlent. Et on est dans des schémas qui rappellent, bien sûr, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas au temps de la diplomatie, comme le disait Pierre Vimont. On est au temps de la guerre. Pour lequel, eh bien, ce que l'on attend, c'est de savoir enfin, qui va gagner ou qui va perdre. Sachant que on est dans une situation aujourd'hui où, en gros, personne ne peut gagner, personne ne peut perdre. C'est ça ce qui est compliqué. C'est-à-dire, on arrive à une espèce de plateau dans lequel les Ukrainiens ont réussi à bloquer, à faire échouer les plans initiaux russes, mais ils n'ont pas les moyens de renverser. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est que c'est un conflit qui s'installe dans la durée et avec une intensité comme on ne l'a pas vu depuis des décennies et en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Vous dites l'un et l'autre que comme les armes parlent, que la guerre a éclaté, le temps de la diplomatie s'est affaibli, disons, même si le dialogue est encore nécessaire, avec vous dit Pierre Vimont. En tant que représentant spécial du président de la République pour l'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie, on sait quand même que Emmanuel Macron a cherché une dizaine de fois à parler. D'ailleurs, il n'a pas seulement cherché, il a contacté une dizaine de fois Vladimir Poutine pour essayer de discuter avec lui. C'est plutôt en vain si on considère que la guerre doit s'arrêter. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au chômage technique, par exemple ? Est-ce que ça veut dire que vous avez arrêté de faire ce travail de représentation du président de la République, parce que de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire en ce moment ?
Je suis au chômage technique et je demande l'asile à Montpellier. Il y avait plusieurs choses dans la mission qui m'était confiée. Il y avait en effet le dialogue direct, bilatéral avec la Russie, et celui-ci pour le moment n'a pas tellement de raison d'être, il faut être bien clair. Nous n'avons plus de dialogue avec eux pour le moment, mis à part les contacts téléphoniques que le président peut avoir de temps en temps avec Vladimir Poutine. Juste un mot sur ces contacts, c'est quand même utile que le président de la République puisse parler avec Poutine de temps en temps, ne serait-ce que pour lui rappeler quelles sont nos positions, pour lui rappeler aussi et le mettre en garde sur des risques liés à l'escalade dans ce conflit. Et le général sûrement aura l'occasion de revenir sur ce point. Et puis aussi, tout simplement, pour éviter que Poutine n'entende que la voix de ses amis. C'est-à-dire que si Poutine, aujourd'hui, ne parle plus qu'avec son homologue chinois, le Premier ministre indien, le président de l'Afrique du Sud ou d'autres pays encore qui soutiennent à mot couvert la position russe, ce serait quand même assez embêtant. Et donc de pouvoir faire entendre un autre son de cloche est quand même très utile. Mais je reviens à ma mission. Si ce dialogue avec la Russie, pour le moment, est suspendu, en effet, il y a tout le dialogue qui, dans le cadre de cette mission, concernait nos partenaires européens. Les 27 États membres d'autres pays, comme l'Ukraine, d'ailleurs, comme la Moldavie, comme la Géorgie, comme nos partenaires américains. Et ce dialogue-là, bien évidemment, il se poursuit à mon modeste niveau. Et je continue à beaucoup leur parler et à y réfléchir ensemble, non seulement sur le court terme, mais aussi dans une perspective de 20 ou 30 ans. Avec, par exemple, cette question très simple, qu'est-ce qu'il faudra faire de la Russie si jamais on arrive à sortir de ce conflit un jour ou l'autre ?
Vous en êtes déjà là ? Vous pensez déjà à l'après ? Vous en êtes déjà là ?
Non, j'en suis là parce que il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans cette guerre invraisemblable qui a à nouveau nous est tombé comme la foudre au milieu d'un ciel bleu. Je me suis replongé dans l'histoire et c'est quand même très intéressant de voir que tous les grands projets qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, le nouvel ordre multilatéral, le projet d'intégration européenne, tout ça est né pendant la guerre. Les initiatives de Roosevelt, ses déclarations avec Churchill, le dirigeant communiste italien Altiero Spinelli emprisonné dans les prisons de Mussolini, qui réfléchit déjà à ce que devrait être une Union européenne, tout ça a commencé pendant la guerre. Et donc je me dis, il n'est jamais trop tard pour anticiper. C'est un peu ça aussi d'ailleurs que le président veut dire quand il parle de ne pas humilier la Russie. C'est de réfléchir au-delà de ce que nous sommes en train de vivre sur le moment même.
Général Pellistrandi.
Oui, il y a un point important dans les discussions ou, disons, les échanges de monologues entre Vladimir Poutine et le président Macron, c'est que la France est une puissance nucléaire. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante parce que ça lui permet d'obliger Vladimir Poutine à l'écouter. Je pense qu'on n'a pas assez vu cette dimension avec des Russes qui remettent en cause l'ordre mondial et en s'appuyant sur le fait qu'ils sont la première puissance nucléaire au monde en nombre de têtes. Et là, eh bien, il faut souligner que le fait que la France soit une puissance nucléaire, qu'elle dispose de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, d'une capacité de dissuasion, je dis bien de dissuasion, oblige l'autre, ne serait-ce qu'à décrocher son téléphone. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Si on raisonnait à l'inverse, imaginons que voilà, la France ne soit pas une puissance nucléaire, qu'elle soit comme l'Allemagne ou l'Italie, je pense que l'escalade aurait été bien plus importante de la part de la Russie. Et donc cette dimension, elle est essentielle parce que elle oblige à la fois Poutine à décrocher son téléphone et à écouter ce qui ne lui plaît pas, mais aussi, et c'est très intéressant quand on regarde depuis le 24 février, chaque fois que Poutine a agité la menace nucléaire, des trois puissances occidentales, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, il n'y a jamais eu de surenchère verbale. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet non pas de calmer le jeu, mais enfin de faire baisser la pression. Et donc, on a la Russie qui s'agite. Souvenez-vous de cette séquence qu'on voit très bien d'ailleurs dans le documentaire de Lagache, où vous avez Poutine avec Shoigu, son ministre, et Gerasimov, sont des chefs d'état-major, qui sont à une table au bout à 20 mètres, qui dit « je vous donne l'ordre de mettre en œuvre la dissuasion nucléaire ». Il n'y a pas eu de communiqué ou de réaction de la part des trois puissances nucléaires, justement. Donc, ça, c'est une dimension qui est essentielle et qui, paradoxalement, permet néanmoins de maintenir le conflit à un niveau encore contrôlable.
Est-ce que tous les deux, en tant que militaires, en tant que diplomates, vous travaillez de concert ? Ou est-ce que vous êtes concurrents dans vos objectifs et d'ailleurs dans vos moyens également ? Dans ce film et dans beaucoup de films de guerre d'ailleurs, quand on voit des réunions au sommet, que ce soit avec un chef d'État ou un autre, on voit souvent côte à côte, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce film, un général ou un colonel, enfin en tous les cas un militaire, et un diplomate. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord sur la façon de mener les choses ?
Le travail entre militaire et diplomate est absolument fondamental et c'est le quotidien. Donc, et on le voit bien justement dans le documentaire de Lagache, avec le fonctionnement bien sûr de la cellule à l'Élysée, qui est en dialogue permanent avec le Quai d'Orsay, le ministère des Armées, mais aussi bien sûr avec l'ambassadeur de France à Moscou, l'ambassadeur de France en Ukraine. Donc c'est un dialogue permanent. Maintenant, chacun doit être dans son rôle, c'est-à-dire que le militaire va proposer des options sur le plan ou donner des informations, et ce dialogue, il est essentiel. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que quand le président de la République a toujours associé, que ce soit bien sûr Jean-Yves Le Drian et Florence Parly dans la précédente mandature, mais aujourd'hui Catherine Colonna et Sébastien Lecornu, ce dialogue, il est absolument fondamental. Et c'est aussi ce qui fait quand même la force de la position française. D'abord, il y a une réactivité que n'ont pas les autres pays européens. Bon, ça, c'est la Constitution, et c'est spécifique à la Ve République, mais ça permet d'avoir une boucle très courte qui permet de réagir très rapidement face, effectivement, à une menace qui n'a cessé de s'accroître depuis le 24 février.
Pierre Vimont ?
Je confirme, bien évidemment. Et je crois que vous touchez là le cœur du métier en ce qui concerne la gestion d'un conflit ouvert comme celui qu'on connaît en Ukraine ou d'autres confrontations qu'on a pu connaître dans le passé en Syrie, en Libye ou ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir cette complémentarité ? Parce que militaires et diplomates regardent la crise sous deux angles différents, forcément. Et que, pour ce qui concerne le diplomate, ce que l'on peut apporter, c'est la vision géopolitique qui devient de plus en plus complexe dans un monde multipolaire. Quand vous avez aujourd'hui, prenez par exemple la crise libyenne. Au départ, c'est une guerre civile où s'opposent deux camps, pour schématiser un peu, le camp de Tripoli et le camp de Benghazi. Et depuis que cette crise a commencé, avec une intervention militaire de la France, de la Grande-Bretagne et de l'OTAN en 2011-2012, est venu se greffer sur cette guerre civile toute une série d'acteurs régionaux ou même pas régionaux qui ont sérieusement compliqué les choses. Il y a eu d'abord tous les pays limitrophes qui se sont intéressés à la Libye, puis ça s'est étendu aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays encore. Et rien que pour cela, les diplomates sont utiles pour apporter justement leur connaissance de ce qui est en train de se passer dans ces pays qui sont parties prenantes au conflit, pour expliquer quels sont les intérêts qui les amènent à être présents dans un tel conflit, pour voir ce qui les motive, pour essayer de voir comment on peut faire pression sur eux, comment on peut essayer de travailler avec eux pour arrêter ce conflit.
Oui, mais justement, pardon de vous interrompre, Pierre Wimon, vous dites arrêter ce conflit. On peut penser naïvement, c'est mon cas, qu'il y a plutôt contradiction entre vos deux fonctions. C'est-à-dire que vous, le diplomate, cherchez à arrêter la guerre, et vous, le militaire, c'est extrêmement schématique et caricatural, je vous l'accorde, mais cherchez à la gagner, la guerre.
Mais oui, c'est ça toute la difficulté. Alors, en fait, quand on se replonge dans l'histoire, et en particulier on peut penser à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, compte tenu de l'ampleur des batailles, c'est que on a d'abord une phase militaire dans laquelle le militaire doit gagner la bataille pour céder la place après aux politiques, et aux diplomates. L'exemple type, c'est bien sûr la guerre de 14-18, où, après 4 ans de guerre, donc on va avoir les négociations. Donc une fois que l'armistice est signé, donc c'est une affaire quasiment entre militaires, on va avoir la négociation du traité de Versailles, qui est essentiellement fait par les diplomates. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu différent, parce qu'on aboutit à une capitulation, c'est-à-dire que l'Allemagne nazie n'a plus le choix, elle doit capituler, elle abandonne sa souveraineté, donc il n'y a même pas eu de phase diplomatique. Aujourd'hui, on est dans des contextes tout à fait différents. D'abord, il faut souligner que la France n'est pas en guerre. On a une guerre en Europe qu'il faut essayer de résoudre. Et donc,
et elle n'est même pas en Europe, la guerre. Et oui. Elle n'est même pas en Europe, pour certains, en tous les cas, la guerre.
En Ukraine,
encore.
Si. Enfin, c'est l'Europe géographique. Voilà. Bon, et puis, il y a aussi, les États de l'Est de l'Europe se sentent très menacés. Ce qui est très important aujourd'hui, et ce que je crois que c'est ça l'évolution dans la conflictualité depuis, on va dire, avec ce que disait Pierre Wimon, la mise en place d'un certain nombre, y compris depuis l'ONU, c'est que aujourd'hui, et notamment c'est le cas pour la France, c'est un travail permanent. Il n'y a pas de le diplomate n'est pas au chômage technique pendant que le militaire c'est ce dialogue permanent. Alors avec des phases plus ou moins importantes. Regardez, il y a eu le sommet du G20 avec les ministres des Affaires étrangères donc à Bali la semaine dernière. C'était Catherine Colonna et qui était présente. C'était le temps de la diplomatie, même si Sergueï Lavrov a fait un passage éclair. Mais on voit bien que ce travail donc et permanent, ce qui n'était pas le cas, effectivement, lors de Première et Deuxième Guerre mondiale.
Pierre Wimon.
Le problème aujourd'hui, si on regarde l'histoire des 40 dernières années, c'est que on ne sait plus finir une guerre, en fait. Et tout pays qui se lance dans une guerre se lance un peu à ses dépens, en réalité, dans cette guerre. Regardez depuis l'intervention soviétique en Afghanistan. Ça se termine mal par les Soviétiques. Les Américains en Irak et en Afghanistan également. Tous les pays qui sont intervenus dans les guerres civiles au Moyen-Orient. Toutes ces guerres, et aujourd'hui bien évidemment la Russie en Ukraine, toutes ces guerres dans lesquelles telle ou telle puissance se lance avec l'idée que ça va aller vite, qu'elle va régler ça en 2 jours, tout ça ne marche plus aujourd'hui. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces guerres modernes en réalité deviennent des guerres qui s'enlisent, qui continuent, qui se prolongent et qu'on n'arrive plus à arrêter ni par un succès militaire, ni même par une négociation. Et au fond, c'est probablement parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où à la fois ce que l'on appelle un peu pompeusement la multipolarité, c'est-à-dire en fait la présence d'acteurs de plus en plus nombreux qui ont tous un enjeu dans beaucoup de ces conflits et qui s'en mêlent et qui ont des intérêts, parce que aussi le multilatéralisme, les Nations Unies ou d'autres organisations internationales, les organisations des diplomates, se sont considérablement affaiblies ces dernières années. Peut-être aussi parce que les guerres, mais ça je laisse ça le soin au général de vous le dire, ont pris maintenant des dimensions de plus en plus complexes, les cyberattaques, la désinformation, etc., etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, commencer une guerre pour un pays, c'est vraiment une opération extrêmement risquée, à mon avis.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
Deuxième émission des rencontres de Pétrarque animées toute la semaine par une question grave. Quelle paix pouvons-nous espérer? Nous venons d'entendre le ministre de l'époque, Dominique de Villepin, à la tribune des Nations Unies en 2003 à propos de la guerre en Irak. Nous sommes en présence de nos deux invités, Pierre Vimont, diplomate, et le général Jérôme Pellistrandi. Vous disiez à l'instant, Pierre Vimont, que on ne sait plus finir une guerre. Pour quelle raison? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion, général Pellistrandi? Et si oui, pour quelle raison?
Alors, la dernière guerre qui a réussi à être très bien terminée, alors vous comprendrez pourquoi le très bien, en fait, c'est la guerre des Malouines, 1982. Mais c'est une guerre de haute intensité qui dure quelques semaines avec la projection des forces britanniques. Et le 22 juin, le commandant de la garnison argentin aux îles Malouines finalement se rend et tout se passe dans de très bonnes conditions. Les unités argentines conservent leur drapeau, les officiers conservent leur arme de poing. Vous voyez, on est dans une symbolique qui rappelle les tableaux du XVIIIe siècle où le chef vaincu rend son épée. C'est la dernière guerre contemporaine qui a réussi à être finie. Bon, la conséquence a quand même été la chute du régime argentin, du régime militaire. Mais c'est la seule. Depuis, effectivement, on n'arrive pas à sortir de ces guerres. Pourquoi? Parce que il y a aussi un premier point, c'est quel est le but de guerre? Et à partir du moment où le but de guerre, par exemple dans le cas de l'Ukraine, visait à dénazifier, démilitariser, neutraliser, en fait à annexer l'Ukraine, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Quand on veut un changement de régime, et les pays occidentaux l'ont payé très cher ces dernières décennies, quand on veut un changement de régime, on voit que au final on n'y arrive pas, donc les conflits s'enlisent.
Louis Gauthier nous a rejoint autour de cette table. Bonsoir.
Désolé, je maîtrise pas les horaires de train.
Nous avons vu cela. Désolé pour vous, mais merci d'être avec nous malgré tout. Louis Gauthier, vous êtes secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Vous l'avez été. Vous dirigez actuellement la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de l'Université Paris 1. Vous avez été le maître d'œuvre de l'ouvrage collectif Mondes en guerre, guerre sans frontières, 1945 à nos jours, aux éditions Passées Composées en 2021. Nous étions en train de nous demander, avec nos deux invités, Pierre Vimont et le général Pellistrandi, si c'était une réalité qu'on ne peut plus finir une guerre aujourd'hui. Et le général Pellistrandi nous disait à l'instant qu'en fait, tout dépend, même si les mondes se sont complexifiés, tout dépend des buts de guerre. Qu'est-ce que vous diriez, vous, comme spécialiste de ces mondes en guerre, sur ce constat amer qu'il est de plus en plus difficile de finir une guerre?
C'est difficile, mais on les finit forcément, et pas toujours dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'auparavant, les guerres ont pu formater un ordre international, ou même le préfigurer. On pense par exemple à la guerre du Golfe, à la fin de la guerre froide, qui d'une certaine manière inaugure une nouvelle ère stratégique et une période de domination quasiment de 30 ans des Occidentaux. Là, c'est une guerre qui risque d'être perdue pour tout le monde et surtout de révéler, qui a déjà commencé à révéler très largement, le désordre, les désordres internationaux. Et c'est pour ça que dans les questions que vous posez, peut-on arrêter une guerre? Oui, le premier qui pourrait l'arrêter, c'est évidemment Poutine qui l'a déclaré, qui l'a enclenché, sur des objectifs de guerre qu'il a maintenus suffisamment flous, d'ailleurs, pour décider le moment où il pourrait l'arrêter. Après, gagner une guerre, gagner la guerre pour qui? On voit bien que d'ores et déjà pour Poutine, il n'a pas réalisé la guerre éclair qu'il souhaitait, il n'a pas réalisé tous ses buts de guerre, mais il lui reste des buts de guerre, et à commencer d'ailleurs parce qu'il a déjà réalisé la captation de 22 à 25% du territoire ukrainien, la russification de la mer d'Azov. Donc voilà, gagner la guerre pour les Ukrainiens, ce serait quoi? Ce serait récupérer les territoires perdus, récupérer la Crimée. Ce sera d'abord reconstruire. C'est aussi d'abord trouver les modalités d'un cessez-le-feu pas trop tardif. Pour les Américains, on peut dire que cette guerre, elle correspond à, pour eux, certainement à des objectifs qui sont pour partie atteints. La remobilisation de leur camp, le fait de refuser la politique du fait accompli de la Russie et ses actions délétères depuis une dizaine d'années, avec sans doute les avantages liés à cette remobilisation, y compris par exemple, je pense, en termes d'exportation, du gaz, d'énergie. Pour les des exportations d'armement, il y a des objectifs indirects qui peuvent être attendus. Et l'élargissement de l'OTAN est aussi un élargissement politique qui implique bien la remobilisation de l'Occident. Pour les Européens, et c'est là où on voit que c'est le plus difficile, parce que les Européens, c'est eux qui doivent tenir une ligne de front, une ligne d'opposition dans la durée, et en même temps qui doivent être attentifs aux conditions d'une reconstruction d'une paix possible sur leur continent. Et donc, la défaite, parce que les Russes et une partie de ces populations qui sont affligées par la guerre, en premier lieu les Ukrainiens, c'est comment définir un avenir de paix pour les Européens. Et ça, c'est très difficile. Quant au reste du monde, cette guerre qui les intéresse pas tant que ça, il suffit de voir comment s'est tenue la préparatoire du G20 au niveau ministériel, elle interroge justement sur les conditions d'un ordre international où l'exemple de l'Ukraine le montre, mais d'autres exemples, la guerre du Haut-Karabakh, ce qui s'est passé en Yémen, qui montre que pour toute une série de puissances, notamment régionales, le passage à l'acte militaire est redevenue une réalité tangible pour déplacer les lignes quand on n'est pas satisfait. Et donc ça aussi, c'est très inquiétant en matière d'ordre international.
Vous parlez de la ligne de front européenne, c'est là que Pierre Vimont intervient, puisque vous disiez tout à l'heure, Pierre Vimont, que vous parlez avec vos partenaires européens en ce moment, précisément. Or, on peut peut-être parler, on l'entendait déjà dans la première émission hier, de plusieurs lignes de front, en tous les cas de plusieurs objectifs de guerre qui commence à diverger entre les Polonais, par exemple, et les Pays-Baltes, qui défendent une poursuite de la guerre jusqu'à la défaite russe, et la France, l'Allemagne ou l'Italie, qui souhaitent garder un canal de communication ouvert avec Moscou dans l'espoir d'un cessez-le-feu. Comment maintenir cette ligne de front unique, singulière, et ne pas permettre que les fissures s'aggravent?
Je crois qu'il faut répondre à votre question sur deux plans un petit peu différents. Le premier plan, je dirais, c'est le court terme. C'est le conflit en cours tel qu'il se présente. Et qu'il s'agisse du soutien à l'Ukraine à travers l'aide militaire, l'aide humanitaire, l'aide financière, je crois que là, l'unité entre les Européens est complète. Nous avons le même objectif, et le président lui-même l'a rappelé, nous ne pouvons pas envisager une victoire de la Russie. Je crois que ça, c'est clair. Si vous vous placez sur le moyen et le long terme, pour reprendre ce que disait Louis à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que dans les réflexions que nous devons mener, est-ce qu'il faut réfléchir au jour d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit un ordre de sécurité en Europe qui, avec cette guerre, a totalement disparu. Les principes d'Helsinki ont volé en éclats, la souveraineté de l'Ukraine, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout ça, ça n'existe plus. Les discussions sur les armes nucléaires stratégiques, les forces conventionnelles, tout ce qu'on était prêt à engager avec la Russie il y a encore quelques mois, tout ça également est mis de côté. Et on voit même les grandes organisations européennes comme l'OSCE ou le Conseil de l'Europe, tout le monde se demande comment est-ce que ça pourra marcher éventuellement une fois la guerre finie avec une Russie qui s'est en quelque sorte mise au banc de l'Europe. Donc sur cette question-là, comment est-ce qu'on relance et qu'on réfléchit ensemble à l'avenir d'un ordre de sécurité en Europe ? Là, pour le coup, je crois qu'il y a en effet des divisions. Parce que je dirais il y a trois groupes. Il y a un premier groupe qui est maintenant dans une position extrêmement dure à l'égard non seulement de Poutine, mais même de la Russie et de la société russe, rendue responsable aussi de ce conflit. Et pour ce groupe de pays européens, la seule solution, c'est isoler la Russie pour autant de temps qu'il faudra. Il faut attendre le départ de Poutine, mais peut-être même au-delà, parce que son successeur sera probablement du même type, et donc il faut isoler la Russie. Il y a un deuxième groupe qui dit non, il faut probablement revenir à ce qu'on faisait du temps de l'ancienne guerre froide, ce que les Américains appelaient le containment, la résister, repousser la Russie et attendre des jours meilleurs. Et puis il y a un troisième groupe qui dit il faut rester ferme vis-à-vis de la Russie, mais si une occasion se présente de relancer le dialogue, ce n'est pas pour demain, mais ce sera peut-être pour plus tard, alors il faut garder un œil attentif à cette possibilité-là. Et on voit que ces trois groupes, pour le moment, se positionnent donc sur des positions différentes. Et à mon avis, il faut trouver un lieu où ils peuvent et ils doivent commencer à parler ensemble, parce qu'encore une fois, la diplomatie, c'est aussi anticiper et être capable de prévoir l'avenir et d'avoir une vision sur le long terme.
Vous avez beaucoup parlé, Général Pellistrandi et vous-même, Pierre Vimont, de court terme, de long terme et donc du temps. Fin juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants des pays du G7 à, je le cite, faire le maximum pour que la guerre menée par la Russie dans son pays prenne fin d'ici la fin de l'année, avant l'hiver. Alors, est-ce que vous pensez que c'est réaliste, que vous allez y arriver ? Comment créer les conditions d'une sortie de crise ? Général ?
Alors, en fait, actuellement, on a donc deux batailles qui sont menées. On a donc dans le Donbass, donc c'est plutôt sur l'initiative russe, même si ceux-ci ont marqué ce qu'ils appellent une pause opérationnelle, ils ont subi beaucoup de pertes, hein, donc il faut recompléter, réparer, remplacer les soldats tués. On estime qu'ils ont perdu environ 5000 soldats entre les morts et les blessés. Puis il y a la bataille de Kherson. Et tout ça, il faut trouver une solution militaire avant l'hiver. Si il n'y a pas de solution militaire avant l'hiver, on va avoir une ligne de front, un conflit gelé, entre guillemets, à tous les sens du terme, et qui redémarrera au printemps 2023. Donc c'est ça vraiment la problématique, sachant que un sixième de la population ukrainienne a dû quitter son domicile. Donc il y a aussi ce volet humanitaire qui est majeur, et donc il faut avoir trouvé des solutions avant l'hiver.
Louis Gauthier, en un mot.
Toutes les échelles du temps, ça a été très bien exprimé par Pierre. Voilà, c'est pas le court terme et le plus long terme pour reconstruire une paix, mais c'est vrai qu'on peut on peut envisager ou accompagner un cessez-le-feu éventuellement, mais ce cessez-le-feu ne sera possible que si les Russes considèrent qu'ils ont déjà obtenu un gain suffisant. Il ne faut pas que ce cessez-le-feu débouche sur la reconnaissance de l'inacceptable. C'est toute la difficulté. Évidemment, les Ukrainiens ont quelque part besoin d'un soutien pour aller vers un cessez-le-feu qui est souhaitable, ne serait-ce que pour éviter la continuation de ce conflit et des pertes. Après, je voudrais juste ajouter un point, c'est sur le fait qu'il y a quand même une démonstration de cette guerre. Elle montre qu'on ne gagne pas facilement un conflit. Bon, je pense que les Chinois entendent qu'il y a des capacités de résistance d'un pays qui font que le recours à la force n'est pas forcément un recours aisé, y compris pour une très forte puissance militaire comme l'étaient les Russes. C'est la première démonstration. La deuxième démonstration, c'est que, évidemment, la démonstration qui est faite en sens inverse montre bien que, et ça c'est ce que disait, j'imagine, le général Pélisse-Rendy un peu plus tôt, la voie militaire ne débouche pas sur les solutions politiques. Elle les prépare, elle les accompagne, elle aboutit à des états de fait, mais dans notre société contemporaine, elle n'est pas la clé de la solution politique au règlement du conflit.
Il est 18h55 et 30 secondes sur France Culture. Vous savez, ces rencontres de Pétrarque sont en partenariat avec la revue européenne Le Grand Continent, incarnée toute cette semaine par Baptiste Roger Lacan, qui a écouté cette émission, qui a pris des notes et qui est chargé d'en faire une synthèse. Baptiste.
Bonsoir Caroline. Aujourd'hui, la rencontre était une affaire de parole. La parole du diplomate d'un côté, la parole au militaire ou du militaire de l'autre. Une question d'abord, vous parlez-vous ? Oui, bien sûr, répondez-vous. Mais aujourd'hui, vous nous parlez et chacun à son tour. Pour Pierre Vimont, d'abord, il faut maintenir le contact avec les Russes. Mais en ce moment, ajoutez-vous, le champ de l'action de la diplomatie est extrêmement limité. L'émotion que suscite la guerre ne permet pas la diplomatie. Et s'il ne faut pas humilier la Russie à moyen et à long terme, nous nous rendons compte qu'à l'instant, la parole se tait. Le dialogue reste néanmoins possible au sommet de l'État et il a son utilité, ajoutez-vous, pour que la Russie entende d'autres voix que celles de ses soutiens plus ou moins ouverts. Général Pélisse-Rendy, vous ajoutez à votre tour, vous dites à votre tour qu'aujourd'hui les armes parlent. Ce qu'on attend de savoir, c'est de savoir qui va gagner et qui va perdre. Mais en réalité, dans cette guerre, personne ne peut gagner et personne ne peut perdre. Même si, ajoutez-vous Pierre Vimont, la diplomatie doit continuer à imaginer un avenir. Pour l'instant, la conversation reste néanmoins possible, du moins entre la France et la Russie, car la France reste une puissance nucléaire. Et la dissuasion, selon vous, oblige Poutine à décrocher son téléphone. Elle empêche aussi la surenchère verbale. Il n'empêche que, face à ces considérations, la parole est impuissante. Comme vous l'avez tous dit, on ne sait plus aujourd'hui terminer une guerre. À cela s'ajoute une question, pourquoi les guerres modernes ne cessent-elles jamais ? Louis Gauthier, dans un entretien au Grand Continent, vous nous disiez que les guerres en chaîne sont la conséquence de mauvaises paix. Et on peut supposer que la guerre actuelle est l'ultime maillon d'une longue chaîne. Vous ajoutez également aujourd'hui que l'ordre international pouvait naître dans la guerre, ce qu'évoquait aussi Pierre Vimont en évoquant tous les rêveurs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont cherché à imaginer l'ordre qui surgirait de la fin de ce conflit. Mais vous ajoutez aussi, et vous êtes tous d'accord sur ce point, que pour l'instant, tout le monde va perdre cette guerre. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elle est la conséquence d'un désordre international, d'un interrègne global dont on ne voit pas la fin.
Merci beaucoup, Baptiste Roger Lacan, pour cette synthèse qui va nourrir, je pense, le débat qui va suivre. Avec la salle, en tout cas, nous allons clore cette émission en remerciant nos trois invités, Louis Gauthier, général Jérôme Pélisse-Rendy et Pierre Vimont, d'avoir assisté, participé, discuté lors de cette deuxième émission qui a été préparée, comme toute la semaine, par Roxane Poulain et réalisée par Nathalie Salle. Un grand merci à toutes les équipes techniques. Ce soir, c'était François Rivalan, David Abicard, Cassis, Thomas Robine, Jean-Benoît Tétu, Romain Lenoir et Julien Calvas sous la houlette de Sandrine Bréchaud. Un grand merci aux équipes du festival, également ici aux rencontres de Pétrarque de Montpellier. On se retrouve demain pour la troisième émission. Nous parlerons de la justice comme condition de la paix. À demain.